d'un homme ridicule, adapté d'un texte de Fédor Dostoïevski et présenté par le Théâtre de Lorraine, avec l'homme Marco Pelli, la petite fille Anastasia de Franchi. Adaptation et mise en onde Marco Pelli, prise de son et montage Pierre Bassolier.
Je suis un homme ridicule. Maintenant, ils disent que je suis fou. Ce serait une promotion s'ils ne me trouvaient pas toujours aussi ridicule. Mais maintenant, je ne me fâche plus. Maintenant, je les aime tous, et même quand ils se moquent de moi. C'est surtout là, peut-être, que je les aime le plus. Je me moquerais bien avec eux, pas de moi-même, non, mais en les aimant, si je n'étais pas si triste quand je les vois. Si triste, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et moi, je connais la vérité. Ah, qu'il est dur d'être seul à connaître la vérité. Mais ça, ils ne le comprendront pas. Non, non, ils ne le comprendront pas. La vérité, je l'ai su en novembre dernier, et plus précisément le 3 novembre. C'était un soir lugubre, le plus lugubre qu'il puisse y avoir. À ce moment-là, à 11h du soir, je rentrais chez moi. Le ciel était terriblement obscur, mais on pouvait nettement distinguer les nuages avec entre eux des taches noires insondables. Tout à coup, dans une de ces taches noires, j'ai remarqué une toute petite étoile et je me suis mis à la regarder fixement. C'était parce que cette toute petite étoile m'avait donné une idée. J'ai décidé de me tuer cette nuit-là. Rentrant chez moi, je me disais que j'allais me brûler la cervelle et j'ai décidé que ce serait absolument pour cette nuit. Et pourquoi cette petite étoile m'a donné cette idée, je n'en sais rien. Et là, pendant que je regardais le ciel, tout à coup, une petite fille m'a saisi par le coude.
« Monsieur, monsieur !»
La rue était déserte. La petite fille avait dans les 8 ans, un petit foulard sur les épaules, avec juste une robe, toute trempée.
« Monsieur, monsieur !»
Elle s'est mise à me tirer par le coude et à m'appeler. Elle ne pleurait pas, mais d'une voix bizarrement octante, elle criait des mots qu'elle n'arrivait pas à prononcer correctement. Parce qu'elle était prise de fièvre, traversée de frissons.
« Ma maman, ma maman !»
Je m'étais déjà tourné vers elle, mais je n'ai pas dit un mot, et je poursuivais mon chemin.
« Ma maman, maman !»
Mais elle me poursuivait et me tirait par le cou. Et à ce moment-là, sa voix a eu ce son qui signifie le désespoir chez les enfants vraiment terrorisés. Je commençais à lui dire d'aller trouver un gendarme. Et d'un seul coup, elle a joint ses petites mains comme pour me supplier. Et sanglotant, elle courait toujours à côté de moi. Elle ne me lâchait pas. C'est là que j'ai tapé du pied et que j'ai crié. « Ça suffit !»«
Monsieur, monsieur !»
D'un seul coup, elle m'a abandonné. Elle a traversé la rue à toute vitesse.
J'ai grimpé jusqu'à mon 4e étage. Je me suis assis
J'ai allumé la bougie et j'ai pensé. J'ai sorti le revolver et je l'ai posé devant moi. Quand je l'ai sorti, je me souviens, je me suis demandé « Oui ?» Et je me suis répondu d'une manière absolument affirmative « Oui ». C'est-à-dire que j'allais me tuer. Je savais que cette nuit-là, j'allais me tuer à coup sûr, mais combien de temps j'allais rester devant mon bureau jusqu'à ce moment-là ? Cela, je n'en savais rien. Et bien sûr, je me serais tué sans cette petite fille. Bon, mais si je me tue, par exemple, dans 2 heures, alors qu'est-ce qu'elle me fait, la petite fille ? Et quelle importance dans ce cas-là, la honte et tout ce que vous voulez au monde ? Je deviens du rien total ? Est-ce que réellement la conscience du fait que dans un instant je cesserai complètement d'exister, et donc rien n'existerait, ne pouvait pas avoir la moindre influence sur cette sensation de pitié pour la petite fille et cette sensation de honte après l'infamie que j'avais commise ? Parce que c'est bien pour cela que j'avais tapé des pieds et que j'avais crié d'une voix hystérique sur cette malheureuse enfant. Bref, cette petite fille m'a sauvé la vie parce que toutes ces questions ont éloigné le coup de feu. Et c'est là, tout d'un coup, que je me suis endormi. Ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant dans mon fauteuil, devant mon bureau. C'est alors que ce rêve m'est venu. Ce rêve du 3 novembre. Me riez au nez maintenant. Ils me disent que justement, ce n'était qu'un rêve. Un rêve.
Un rêve.
Un rêve.
Un rêve.
Un rêve. Mais c'est pas égal que ce soit ou non un rêve, si ce rêve est venu m'annoncer la vérité. Écoutez. D'un coup, j'ai rêvé que je prenais le revolver et que, toujours assis, je le pointais directement sur mon cœur. Mon cœur et pas ma tête. Et je me suis dépêché de tirer. Je ne sentais aucune douleur. Mais il m'a paru que ce coup de feu avait tout bouleversé en moi et que tout s'était éteint d'un coup. Puis me voici porté dans un cercueil fermé. Et je sens le tangage du cercueil. Et voilà qu'on m'enfouit dans la terre. Tout le monde s'en va. Je suis seul. Complètement seul. Je ne bouge pas. J'étais allongé et, bizarrement, je n'attendais rien, admettant sans discussion qu'un mort n'a rien à attendre. Et voilà que tout à coup, mon cercueil s'ouvrit. Et je fus pris par une espèce de créature sombre que je ne connaissais pas, et nous nous retrouvâmes dans l'espace. Tout à coup, mes yeux virent. C'était une nuit profonde. Jamais, jamais il n'y avait eu pareille obscurité. Nous volions dans l'espace, déjà loin de la Terre. Et tout à coup, une espèce de sentiment connu me bouleversa. Je vis tout à coup notre soleil. Je savais que ça ne pouvait pas être notre soleil qui a donné naissance à notre Terre et que nous étions à une distance infinie de notre soleil. Mais je reconnus, je ne sais pas pourquoi, par toutes les fibres de mon être, que c'était un soleil exactement pareil au nôtre, sa réplique et son double. Une sensation douce retentit dans mon âme comme une extase, la force d'une lumière originelle, de cette lumière qui m'avait mise au monde, se répandit dans mon cœur et le ressuscita, et je ressentis la vie d'avant, pour la première fois après ma tombe. Mais si c'est le soleil, si c'est un soleil absolument pareil au nôtre, alors où est la Terre? Et mon compagnon me montra cette petite étoile qui luisait dans le noir d'un éclat d'émeraude. Nous volions droit vers elle. La planète grandissait devant mes yeux. Je distinguais déjà l'océan, les contours de l'Europe. Mais mon compagnon m'avait quitté. D'un coup, je me vis sur cette autre terre, dans la lumière éclatante d'une journée ensoleillée, plus belle que le paradis. Et je vis et je connus les hommes de cette terre heureuse. Ils vinrent vers moi d'eux-mêmes. Ils m'entourèrent, ils m'embrassaient. Les enfants du soleil, enfants de leur soleil, qu'ils étaient beaux. Jamais je n'avais vu sur notre terre une pareille beauté dans l'être humain. Tout de suite, dès que je vis leur visage, je les compris tous. Oui, tous. C'était une terre pas encore souillée par le péché originel. N'y vivaient que des hommes qui n'avaient pas encore péché. Il vivait dans un paradis semblable à celui dans lequel avaient vécu, d'après toutes les légendes de l'humanité, nos ancêtres pêcheurs. Pourquoi n'arrivais-je pas à les aimer sans les haïr? Ils m'écoutaient. Et je voyais qu'ils ne pouvaient se représenter ce que je disais, mais je ne regrettais pas de leur parler. Je savais qu'ils comprenaient toute la force de ma nostalgie pour ceux que j'avais quittés. Oh, maintenant, ils se moquent tous de moi en face. Ils m'assurent que dans mon rêve, je n'ai ressenti qu'une simple sensation, née du propre délire de mon cœur. Mais comment pourrais-je ne pas croire que cela fût en réalité? Vous savez, je vais vous dire un secret. Tout cela peut être bien. C'était tout ce fin rêve. Parce qu'il y a une chose qui s'est passée, une chose vraie jusqu'à une telle horreur qu'elle n'aurait pas pu me venir dans mon rêve. Oh, jugez-vous-même jusqu'à maintenant. Je le cachais, mais maintenant, cette vérité, je vais la dire jusqu'au bout. Le fait est que je les ai tous corrompus. Comment cela a pu se produire, je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus très bien. Je sais seulement que la cause du péché originel, c'était moi. Comme une trichine dégoûtante, comme un atome de peste qui contamine des pays tout entiers. Ainsi, moi-même, j'ai contaminé toute cette terre qui, avant moi, vivait heureuse et sans péché. Ils apprirent à mentir. Ils aimèrent le mensonge. Ils connurent la beauté du mensonge. Oh, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Mais très vite, le premier sang jaillit. Ils s'étonnèrent. Ils furent horrifiés et commencèrent à se disperser, se désunir. Parurent les alliances, mais cette fois, les uns contre les autres. Commencèrent les querelles, les reproches. Ils connurent la pudeur et firent de la pudeur une vertu. Naquit la notion d'honneur et chaque alliance hissa son propre drapeau. Commencèrent les luttes pour les séparations, l'autonomie, l'individualité, pour le mien et le tien. Ils parlèrent des langues différentes. Ils connurent la douleur. Ils eurent soif de souffrance et dirent que la vérité ne pouvait être atteinte qu'à travers la souffrance. Quand ils devinrent méchants, ils parlèrent de fraternité, d'humanité. Quand ils devinrent criminels, ils inventèrent la justice et s'imposèrent toute une série de codes pour la conserver. Et ils instaurèrent la guillotine. Ils ne se souvenaient qu'à peine de ce qu'ils avaient perdu et ne voulaient même plus croire qu'un jour ils avaient été innocents et heureux. Ils riaient même de la possibilité de ce bonheur passé et ils l'appelaient un songe. Je marchais parmi eux en me tordant les bras et je pleurais sur eux. Mais je les aimais, peut-être encore plus qu'avant. Quand il n'y avait aucune souffrance sur leur visage et quand ils étaient innocents et si beaux. J'aimais leur terre qu'ils avaient souillée plus encore qu'au moment où elle était un paradis. Et seulement parce que le malheur y était apparu. Je tendais les bras vers eux, je m'accusais, me maudissais, me méprisais au désespoir. Je leur disais que tout cela, c'est moi qui l'avais fait, moi seul. C'est moi qui leur avais apporté la perversion, le poison, le mensonge. Je les suppliais de me clouer sur une croix. Je leur montrais comment faire une croix. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas la force de me tuer tout seul. Je voulais qu'ils m'infligent les supplices. J'avais soif de supplices. J'avais soif de répandre mon sang dans ces supplices jusqu'à la dernière goutte. Eux ne faisaient que se moquer de moi. Et à la fin, de me dire que je devenais dangereux et qu'ils me mettraient dans un asile si je ne me taisais pas. Alors, la douleur pénétra dans mon âme avec une telle force que mon cœur se serra. Et je sentis que j'allais mourir. Et là... Bon, et c'est là que je me suis réveillé. C'était déjà le matin. Il était près de 6 heures. J'ai vu devant moi, dans un éclair, mon revolver, tout prêt, chargé. Mais en un instant, je l'ai repoussé. Oh, maintenant, la vie. La vie. J'ai levé les bras. J'ai invoqué la vérité éternelle. J'ai pleuré l'exaltation. Une exaltation sans limite soulevait tout mon être. Oui, la vie. Et puis, le prêche. Le prêche. J'ai pris cette décision en une seconde, et bien sûr pour toute la vie. J'irai prêcher, je veux prêcher. Quoi ? La vérité, car je l'ai vue de mes yeux, vue dans toute sa gloire. Et donc depuis ce temps, je prêche. Et puis j'aime tous ceux qui se moquent de moi, je les aime plus que les autres. Pourquoi, je ne sais pas, et je ne peux pas l'expliquer. Mais soit, je marcherai, et je parlerai toujours sans me lasser, et je combattrai. Et si seulement tout le monde le voulait, tout se construirait d'un coup. Quant à la petite fille, je l'ai retrouvée. Et j'irai. J'irai.
C'était Le rêve d'un homme ridicule. Adapté d'un texte de Fédor Dostoïevski et présenté par le Théâtre de l'Oreille. Avec Marco Poli dans le rôle de l'homme et Anastasia De Franchi dans le rôle de la petite fille. Adaptation et mise en onde Marco Poli. Prise de son et montage Pierre Bassoli.